Alors, nous sommes rendus à la chronique histoire. Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, certainement. Alors, nous sommes en février, comme l'a si bien dit Yvan en ouverture d'émission. Alors, donc, on sait qu'on est en février 2024. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et vous avez décidé de nous parler ce matin d'une conférence qui a eu lieu à Berlin au 19e siècle, en 1884, et de la colonisation de l'Afrique par les puissances européennes. On vous écoute.
Oui, c'est une histoire que les Africains et Africaines ont subie plus qu'une histoire à laquelle ils ont participé, mais quand même. Donc, vous le disiez, 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck décide d'organiser une grande conférence internationale pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Et je vais vous faire la liste des États qui étaient représentés à la conférence française. Tendez l'oreille, dites-moi si, à votre avis, il manquait quelqu'un autour de la table.
Je dois répondre à la devinette. Bon, c'est bon, voilà, je vous écoute attentivement.
Absolument. Les pays, l'Allemagne, bien sûr, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, le Danemark, les États-Unis, la Russie, le Royaume de Suède et Norvège, les deux pays étaient unis à ce moment-là, et l'Empire ottoman, et c'est tout. Est-ce qu'il manquait quelqu'un, à votre avis?
Je pense qu'il en manquait plusieurs. Je vais résumer ça en un mot, l'Afrique.
Voilà. Vous avez tapé dans le mille. Il n'y avait aucun Africain qui a pris part aux discussions. Les dessins représentant la conférence nous montrent un groupe d'hommes blancs assis autour d'une table. Il y en a quelques-uns debout devant une immense carte de l'Afrique. C'était une conférence pour établir les règles du partage du continent entre les nations colonisatrices et on n'avait pas l'intention de demander aux Africains et aux Africaines ce qu'ils en pensaient.
Je m'excuse, Marcel, tous ces pays-là étaient colonisés à l'époque dont on parle, quand vous parlez du partage?
Justement, c'était définir comment on allait se partager le continent, à quelles règles on allait obéir pour pouvoir le faire et comment on allait s'entendre les uns avec les autres. J'y arrive dans un petit moment. Les Européens connaissaient l'Afrique depuis toujours, évidemment, c'était tout juste de l'autre côté de la Méditerranée, mais quand on va se lancer dans la, entre guillemets, découverte et la conquête de toutes ces terres qu'ils ne connaissaient pas à partir du 15e siècle, on va, évidemment, s'intéresser à ce continent qu'on savait riche en ressources, mais on va rester dans les régions périphériques. On installe des comptoirs près des côtes océaniques de l'Afrique et en règle générale, on ne va pas chercher nous-mêmes l'or, les épices, l'ivoire, les esclaves et les autres marchandises qu'on voulait transiger. On avait des intermédiaires africains qui nous obtenaient tout ça, on leur achetait les marchandises pour ensuite les revendre. Encore au début du 19e siècle, les cartes de l'Afrique étaient très vagues. Le pourtour du continent était bien représenté, mais le centre, c'était terra incognita, comme on disait à ce moment-là, terre inconnue. On s'imaginait ce qui s'y trouvait comme richesse, mais on ne le savait pas très bien. Et une des principales raisons pour lesquelles les Européens hésitaient à s'aventurer vers l'intérieur du continent, c'est que très souvent, ils n'en revenaient pas. Les maladies qui se transmettaient dans les régions tropicales, comme la malaria par exemple, faisaient des ravages chez les explorateurs et soldats venus d'Europe. Et c'est ironique quand on y pense. On sait que les maladies transportées par les Européens ont beaucoup facilité leur conquête de l'Amérique en décimant les populations autochtones. Eh bien là, l'arme bactériologique se retournait contre eux et les moustiques qui transportaient, notamment la malaria, ont participé à la défense de l'Afrique contre l'invasion européenne. Mais au 19e siècle, c'est un siècle qui est marqué par une série de découvertes médicales, la quinine notamment, qui guérit la malaria. Et à ces avancées médicales s'ajoutent des avancées techniques, le bateau à vapeur. On n'a pas besoin de remonter les fleuves et rivières d'Afrique à la rame. On est en mesure aussi de construire des voies de chemin de fer pour transporter du matériel et des hommes beaucoup plus rapidement que par le passé. Et on a des armes infiniment plus perfectionnées que les populations africaines. Donc, fort de toutes ces innovations, dans le dernier quart du siècle, l'Europe se sent d'attaque pour prendre possession de ce continent qui le narguait depuis si longtemps. On calcule qu'en 1870, environ 10% du territoire africain était sous contrôle de pays européens. Et en 1914, quand la Grande Guerre commence, 7 puissances coloniales d'Europe contrôlaient 90% du continent. Il restait l'Éthiopie, le Libéria, qui est indépendant, plus quelques royaumes à droite et à gauche, mais essentiellement, on avait terminé le travail de conquête. On voulait des colonies, pourquoi? pour en extraire les ressources au bénéfice du pays colonisateur, évidemment. Mais on voyait aussi un beau bassin de consommateurs potentiels. Si on implante notre système économique capitaliste dans ces pays pleins de gens primitifs, et par primitifs, je veux dire, qui ne possédaient pas tous ces beaux produits qu'on fabriquait en Europe, ça nous fait un débouché. Et comme c'est une colonie, on contrôle le pays, la population ne peut pas magasiner, une compagnie d'un autre pays vend le produit X moins cher, ben c'est tant pis, vous achetez les produits de nos compagnies au prix où elles veulent bien vous les vendre, et c'est tout, ça n'avait que des avantages. Mais on veut aussi des colonies, évidemment, pour le prestige, ça va de soi. Tous les monarques veulent des empires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. C'est un grand concours de mon empire colonial et plus gros que le tien, on va le dire. Mais les puissances européennes vont réfléchir à ce qui s'était fait avant et se disent, pourrait-on trouver une manière de se partager l'Afrique et que tous les pays qui veulent des colonies et sont assez puissants pour se le permettre puissent en profiter sans qu'on s'entretue. Et c'est une des motivations de la conférence de Berlin. On va s'entendre sur un certain nombre de principes, tout particulièrement sur le fait qu'un pays qui contrôle une région côtière peut agrandir sa sphère d'influence vers l'intérieur du continent jusqu'au moment où on atteint la sphère d'influence d'un autre pays. Mais on ne peut pas simplement dire « le bassin de telle rivière, le plateau de telle chose, c'est à moi ». On doit occuper les terres qu'on réclame administrativement, militairement, on en fait l'exploitation ou encore en ayant des ententes avec les chefs locaux. Et les autres puissances n'étaient pas supposées occuper une région appartenant à un différent pays si les critères d'occupation effective, comme on disait, étaient remplis. C'était la manière qu'on avait trouvée pour limiter les conflits armés entre puissances.
Donc, on associait d'une certaine manière les chefs locaux.
Les chefs locaux prenaient part à l'affaire, plus ou moins contre leur gré, si vous voulez, parce que c'était une manière de prouver notre, en guillemets, possession du territoire, mais on leur faisait signer des traités, souvent très complexes, dans la langue du colonisateur. Les chefs n'avaient le plus souvent aucune idée de ce qu'ils signaient, mais on les soudoyait en général, ou alors on leur expliquait pas nécessairement chacune des clauses, tous les tenants et aboutissants de ce qu'ils signaient. Donc, les autorités coloniales pouvaient prétendre que ces populations locales-là rejoignaient l'Empire de leur plein gré. Ça prenait beaucoup d'imagination pour voir les choses comme ça. Et les colonisateurs ne se sont jamais donné la peine d'apprendre à connaître ce territoire extrêmement complexe qu'ils étaient en train de conquérir. Tout se passait au-dessus de la tête des populations locales. La France et l'Angleterre pouvaient dire, bon, tout ce qui est à l'est de telle rivière, c'est à vous. Nous, on a l'ouest de la rivière. Mais il pouvait y avoir un groupe ethnique avec une communauté de langue et de tradition qui vivait de part et d'autre du cours d'eau, qui soudainement se retrouvait partagé entre deux différents empires, répondait à deux différentes administrations. Et le peuple de l'ouest, admettons pour continuer avec mon exemple de la rivière, pouvait se retrouver au sein d'une même administration régionale avec leurs ennemis séculaires plutôt qu'avec le reste de leur groupe qui était maintenant, par exemple, sujet britannique, on ne sait absolument pas préoccupé de ce genre de détails. L'Afrique, donc, a été colonisée à une vitesse remarquable, comme je vous le disais, de 10 à 90% en moins d'un demi-siècle de contrôle européen. La décolonisation s'est elle aussi fait extraordinairement rapidement après la Seconde Guerre mondiale, mais l'héritage de ce système de partage du continent qui a été en partie décidé à la conférence de Berlin est extrêmement lourd à porter. Les ressources qui ont été extraites du territoire africain pour permettre l'enrichissement d'étrangers, évidemment, elles sont perdues. On ne peut pas les récupérer et les revendre une deuxième fois. Le capital humain a été perdu aussi. Mais surtout, quand on regarde une carte du continent africain aujourd'hui, bien, c'est une carte complètement artificielle. Les pays qui sont là ont, sauf de rares exceptions, été conçus par les colonisateurs. Et c'est un assemblage disparate de groupes ethniques qui n'ont aucun lien entre eux. Mais en tant que tel, les objectifs de la conférence de Berlin ont été atteints. On s'est entendu sur qui pouvait aspirer à avoir une part du gâteau. Et pendant les 30 ans qui ont suivi la conférence jusqu'au début de la guerre de 14, il y a eu des tensions, il y a eu des incidents. Mais globalement, on a réussi à partitionner cet immense continent sans qu'il y ait de grands affrontements entre colonisateurs. Et la conférence a mené à la création d'un État qui s'est appelé l'État libre du Congo, qui est l'ancêtre de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, la RDC. Et il y a beaucoup trop de choses à dire sur cet État franchement singulier. Francine, ce sera mon sujet de la semaine prochaine.
Ah!
Ne manquez pas ça, c'est une histoire franchement renversante et à toutes sortes de points de vue.
C'est vraiment fascinant.
Est-ce qu'on a le devoir de lire Tintin au Congo avant votre chronique de la semaine prochaine?
Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous éclairerait, parce que Tintin au Congo, c'est un album qui, généralement, n'a pas très bien vieilli, comme Tintin
non,
en Amérique.
Non, c'est ça. Non, il n'y a plus de très bonne réputation aujourd'hui, effectivement. Ça, on disait tantôt qu'il n'y avait rien qui datait, comme on disait, de la musique, des livres et tout ça, mais il y en a qui passent pas la rampe à un moment donné, hein, et surtout aujourd'hui. Alors, ben merci beaucoup, Marcel, et on va vous attendre, on va vous espérer avec grand hâte la semaine prochaine. Alors, bon week-end et bonne semaine d'ici notre prochain entretien.
À vous aussi.